Alors, pour ce soir, si je vous cite une partie d'un verset biblique en disant ce que Dieu veut, j'espère que certains au moins vont pouvoir compléter ce propos biblique. Ce que Dieu veut, c'est
Votre sanctification.
votre sanctification. Donc, ce soir, nous allons rester avec quelques éléments de ce que nous avons vu ensemble la semaine dernière. Alors, comme ça s'est souligné dans mes prières, les élections sont maintenant passées. Donc, on va laisser ce côté-là de côté, mais on va rester sur d'autres aspects de ce qu'on a vu ensemble la semaine dernière concernant notre style de vie dans le royaume de Dieu et l'appartenance de notre vie et ce que cela implique pour nous en tant que chrétiens. Et donc, je vous invite à trouver le passage d'où est tirée cette citation qui se trouve en 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Effectivement, c'était le verset 3. Nous allons lire les versets 1 à 8 qui forcément intègrent le verset 3. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et ce que nous allons regarder ce soir, c'est le fruit de quelques pensées qui était le résultat de la lecture il y a quelques semaines d'une phrase qui pourrait éventuellement choquer certaines personnes. Cette phrase disait: Dieu s'intéresse beaucoup plus à votre sanctification qu'à votre bonheur. Dieu s'intéresse beaucoup plus à votre sanctification qu'à votre bonheur. Bon, effectivement, on va voir tout à l'heure, tout dépend de ce que l'on entend par le mot bonheur. Si mon bonheur, c'est de marcher avec Dieu, c'est de voir cette sanctification en train de se mettre en place dans ma vie, c'est de voir que ma vie est en train de s'approcher de Dieu et d'aller, comme dit Paul, de progrès en progrès, alors là, effectivement, les deux se combineront. Et il y aura donc sanctification et bonheur. Mais Dieu ne s'intéresse pas tellement au bonheur de ma chair. Il y a quelques années, j'ai discuté avec quelqu'un qui pourtant avait passé des années dans une église, qui me disait: Dieu veut que je sois heureux. Dieu ne veut pas que je sois attristé. Donc, Dieu ne veut pas que je reste avec ma femme parce que je suis triste avec elle. Dieu veut que je parte avec cette autre femme qui me rend heureux. Autrement dit, Dieu forcément approuve ce que je fais lorsque je vis à l'encontre de ses lois. Alors, Pas besoin de vous dire qu'on a eu un petit différent d'opinion dans cette conversation. D'autant plus si effectivement Dieu s'intéresse beaucoup plus à notre sanctification qu'à notre bonheur. On voit à quel point ce raisonnement peut être dangereux. Dieu ne veut pas que je sois triste, il veut que je sois heureux. Si ce qui rend ma chair heureuse, c'est péché, bah forcément, Dieu est d'accord avec mon péché. Mais pas si ce que Dieu veut, c'est ma sanctification. La Bible est très claire. Verset 3 donc, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Dieu s'intéresse plus à ce moment-là de ma sanctification que de mon bonheur. Si mon bonheur va à l'encontre de ses objectifs, de ses projets, de ce que lui, il veut pour moi, puisque les objectifs de Dieu pour ma vie sont surtout la repentance des œuvres de la chair. Il veut me conduire à la repentance, qui est même plus que simplement être attristé à cause de mon péché ou toujours en train de demander pardon pour mon péché. Il veut m'emmener au point où j'abandonne mon péché pour m'approcher de Dieu et où je vis avec lui. Ce que Dieu vise, c'est la reproduction de la nature de Jésus en moi. Jésus qui, lui, a vécu sans péché. Bon, la Bible nous dit que nous, il ne faut pas rêver de cela jusqu'à ce que on soit débarrassé de ce péché qui colle à notre chair, lorsque notre chair est renouvelée par la résurrection. Mais quand même, Paul nous dit que l'objectif, malgré tout, c'est que nous avancions de progrès en progrès dans notre sanctification. Que on ne se cache pas derrière un argument où Dieu s'intéresserait tellement à mon bonheur qu'il est d'accord avec moi, même quand je fais ce qui est faux, mais Dieu veut ma sanctification plus qu'autre chose. Il veut voir la nature de Jésus en train d'être reproduit en moi. Il faut appliquer une autre définition du bonheur si on veut que Dieu veuille notre bonheur. D'un certain côté, Dieu veut notre bonheur. C'est juste que parfois notre définition n'est pas la même que la sienne. Nous, on pense à notre bonheur en termes de ce qui rend notre chair heureux. Lui, il dit au contraire, comme on a vu le week-end dernier, heureux ceux qui vivent selon les règles de mon royaume. Heureux les pauvres en esprit, par exemple. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous persécute à cause de mon nom. Il dit, il y a un bonheur de suivre le Seigneur, mais c'est un bonheur qui vient du fait de ne plus rechercher le bonheur de notre chair, mais de chercher les choses de Dieu. Ce que Dieu vise en termes de notre bonheur, c'est surtout notre bonheur éternel. Jésus disait dans Marc chapitre 8, verset 36, « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Il peut être heureux avec tout ce que ce monde peut offrir, mais à quoi ça sert si après 70, 80 années de bien s'éclater avec les choses de ce monde, il perd son âme ? Parce qu'il a visé les choses de ce monde, il a vécu pour sa chair et non pas pour le Seigneur. On a vu dimanche dernier que donc, la Bible nous dit que si nous sommes chrétiens, Dieu nous transporte dans un royaume qui n'est pas de ce monde. Vous vous rappelez, Colossiens chapitre 1, verset 13, on avait lu, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres » et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ce royaume, on avait vu que Jésus décrivait comme n'étant pas de ce monde. Mon royaume, Jean 18, verset 36, en parlant à Hérode, à Pilate, pardon, n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est point d'ici-bas. Mais c'est dans ce royaume que Dieu veut nous transporter. C'est dans ce royaume qu'il veut qu'on vive et qu'on trouve le bonheur. Mais la Bible nous rappelle que pour l'instant, donc, ce royaume s'agit du royaume encore à venir. C'est un royaume que Jésus, certes, a fait approcher de nous et dans lequel il nous a donné la possibilité d'entrer en mettant notre confiance en lui. Mais il dit, pour l'instant, mon royaume n'est point d'ici-bas, mon royaume, c'est le royaume à venir. Et Dieu sait que notre vrai bonheur est lié à notre participation dans son royaume. Il sait que si vraiment on veut être heureux, on ne trouvera ce vrai bonheur que à l'intérieur de son royaume. Matthieu chapitre 13, versets 40 jusqu'à 43, Jésus disait, « Comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et tous et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Jésus disait, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez quelques années de bonheur pour votre chair qui, dans quelques années, va de toute façon mourir? Ou est-ce que vous voudriez viser ce bonheur où les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, à côté de tous ceux qui ont vécu pour le bonheur immédiat dans un monde qui va à sa perte? Et qui donc n'auront pas cette joie de vivre éternellement dans le royaume de leur Père. Si notre définition du bonheur, c'est la définition de Dieu, c'est le bonheur éternel qui dépend de notre participation dans son royaume, à ce moment-là, certes, Dieu veut notre bonheur, mais ce bonheur, on y accède à travers notre sanctification que Dieu veut actuellement dans notre vie. Parce que Dieu veut donc, par notre sanctification, assurer notre participation dans ce royaume. Ce n'est pas que Dieu est contre le bonheur, simplement Dieu sait que le vrai bonheur se trouvera dans son royaume. Et donc, il veut faire tout ce qui est nécessaire pour assurer qu'on entre dans ce royaume, qu'on connaisse ce bonheur. Et il dit pour ça, ce qu'il faut, c'est votre sanctification qui n'ira pas toujours de pair avec le bonheur de votre chair, mais qui vous assurera le bonheur éternel. Alors, heureusement, la Bible nous montre très clairement qu'aucun péché n'est au-delà de la grâce de Dieu. Donc, on n'a jamais à vivre dans la crainte que si jamais on a fait telle ou telle chose, on soit au-delà de ce que Dieu puisse pardonner, de ce que Dieu puisse rattraper. Romains 5, verset 20, nous dit « La loi est intervenue, listant donc tout ce qui est péché, nous montrant ce qui est péché. La loi est intervenue pour que l'offense abonde. » Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce donc est encore plus grande que le plus grand des péchés. Mais, bon, Paul va dire après, ce n'est pas une raison, une fois chrétienne, de dire, bon, bah, pour que la grâce abonde encore davantage, bah, je vais augmenter le péché. Et comme ça, donc, il y aura encore plus de grâce dans ma vie. En même temps, Au contraire, la Bible nous donne quelques mises en garde contre le péché, contre le fait de nous plaire dans le péché et de vouloir continuer à vivre tout le temps dans le péché, en disant que même si cela ne nous met pas au-delà de la grâce de Dieu, il faut être conscient que rester dans le péché nous éloigne de la présence du Seigneur, puisque cela endurcit notre cœur. Parce que la Bible nous dit que le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous reprendre au niveau du péché. Donc si on veut continuer dans quelque chose que Dieu appelle péché, le Saint-Esprit va toujours, quand on veut louer Dieu, quand on veut venir à Dieu, il va toujours nous ramener à ce point de dire, mais il faut abandonner ce péché, il faut se repentir. Et le seul point d'être tranquille à ce moment-là, c'est de fermer notre cœur, d'endurcir notre cœur pour ne pas se mettre à l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, c'est un jeu dangereux, parce que plus on fait ça, le risque c'est que notre cœur, à un moment donné, devient tellement durci qu'on n'entend plus du tout la voix du Saint-Esprit, au point où on peut renoncer au Seigneur et au salut qu'il nous offre par le moyen de la repentance. Donc la meilleure antidote à ce danger, nous dit la Bible, c'est notre sanctification. Si nous sommes en train de collaborer avec Dieu, si nous allons de progrès en progrès, la Bible dit, on n'a rien à craindre. Au contraire, nous allons entrer dans le projet de Dieu et découvrir de plus en plus le bonheur de plaire à Dieu, le bonheur de sa présence avec nous et de plus est le bonheur de sa grâce éternelle dans son royaume. Je pense que je vous ai déjà raconté qu'un de nos directeurs d'école biblique était une fois, il nous disait, il était une fois invité à prêcher dans un camp de jeunes. Et quand il est arrivé, les responsables lui ont dit, écoutez, le thème qu'on aimerait que vous abordiez, c'est de nous expliquer quelles sont les limites du péché. Jusqu'où est-ce qu'il nous est permis d'aller sans que ça devienne un péché problématique et qu'on risque de s'éloigner du Seigneur. Alors le prédicateur leur a dit, ben, si vous voulez ça, vous vous êtes trompé de prédicateur. Je suis désolé, moi je ne prêche pas sur ce thème-là. Il dit, je veux bien prêcher de la sanctification que Dieu veut pour vous, je veux bien prêcher du projet où Dieu veut vous attirer loin du péché et plus près de lui, mais je ne joue pas au jeu de vous montrer jusqu'où vous pouvez pousser les limites en jouant avec le péché. Hébreux chapitre 12, verset 14 nous encourage à rechercher la sanctification. Ça fait partie de la vie chrétienne normale de rechercher la sainteté, de rechercher comment Dieu veut qu'on vive, et au lieu de dire, bon, jusqu'où est-ce que je peux faire plaisir à ma chair, de dire, ben, qu'est-ce que je dois faire pour faire plaisir à Dieu? Et comment est-ce que je peux faire davantage plaisir à Dieu par ma vie? Et puis la Bible nous dit également qu'à travers notre sanctification, Dieu veut aussi nous préparer à la vie dans son royaume. Vous savez, si notre bonheur se trouve dans le péché, vous avez peut-être déjà entendu parfois des gens qui disaient, ben, moi je ne veux pas aller au ciel, parce que je vais m'ennuyer, et moi je veux être en train de faire la fête avec mes copains, je ne veux pas aller au ciel. Ben, effectivement, au moins c'est honnête. Si notre bonheur se trouve avec tout ce qui est péché, on va détester le ciel, parce que le péché n'existera plus. Les choses qui nous procuraient bonheur n'existeront plus. On ne trouvera que des choses qu'on fuyait comme la peste tout au long de notre vie. Mais Dieu veut nous préparer à cette vie dans le royaume avec lui. C'est un peu comme on disait l'autre fois. Si vraiment on recherche le royaume de Dieu, on ne va pas chercher le bonheur dans tout ce qui est contraire au style de vie du royaume. Au contraire, nous allons chercher notre bonheur dans les choses de Dieu et dans son royaume. D'autant plus que, comme on a vu il y a quelques semaines, ce que Dieu veut aussi, c'est préparer l'épouse de Jésus-Christ pour le retour de notre Seigneur. Il veut nous sanctifier pour qu'on soit préparé, pour qu'on devienne cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ça le but final de Dieu avec notre vie. C'est qu'on soit sainte et irréprochable pour connaître le bonheur de ce royaume éternel. Et du coup, ce que Dieu veut, à partir du moment où nous lui consacrons notre vie, c'est notre sanctification qui va donc dans ce même sens. Mais aussi, Dieu sait, puisqu'il est celui qui nous a créés, puisqu'il est celui qui est omniscient, il sait aussi que ce chemin de la sanctification, non seulement va nous garantir le bonheur éternel, mais est aussi le meilleur moyen de vivre un vrai bonheur actuel, dans cette vie, dans ce monde. Sauf que non pas le bonheur de notre chair, mais le bonheur de notre âme vécue avec le Seigneur dans cette vie que Jésus dit qu'il est venu nous apporter. Je suis venu, Jean 10, verset 10, afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Dieu veut qu'on ait effectivement une vie heureuse. Et Dieu, puisqu'il est omniscient, puisqu'il est notre créateur, puisqu'il est au-dessus de toute chose, il sait que le péché a toujours des conséquences négatives dans la vie. Et puisqu'il est un Père qui nous aime, il voudrait nous les épargner. Non pas pour nous empêcher le bonheur, mais parce que par amour pour nous, il désire qu'on connaisse le vrai bonheur et qu'on évite toutes les conséquences négatives liées au péché qui vont procurer peut-être un bonheur factice, temporaire pour notre chair. Je lisais il y a quelque temps l'histoire du développement depuis, dans les dernières 50 années, de l'Église en Amérique du Sud. Et il disait, une des choses clés dans le développement de l'Église en Amérique du Sud, c'était justement la transformation de la vie des gens. C'était de voir des gens qui, autrefois, se saoulaient tous les week-ends, qui violaient, qui commettaient adultère régulièrement, être transformé par la puissance de l'Esprit de Dieu et la puissance de l'Évangile. Et que quand les gens voyaient la transformation de vie de ces chrétiens, ça leur donnait envie de connaître ça. Parce qu'au lieu de vivre tous les week-ends dans la crainte ou d'être appauvri par le fait que tout l'argent de la famille partait dans des bars, ils avaient envie d'une vie tranquille, d'une vie calme, d'une vie où on trouvait le bonheur de louer le Seigneur ensemble, en famille. Et que de par cette transformation de vie, de par le fait qu'ils voyaient qu'il y avait des conséquences radicalement différentes dans le fait de suivre le Seigneur, ça donnait envie à de nombreuses personnes à venir découvrir pour eux-mêmes dans l'Église ce qui se passait, venir découvrir l'Évangile pour eux-mêmes et être transformés eux-mêmes et voir leur vie de famille même être transformée par l'Esprit et la puissance de l'Évangile de Dieu. Parce que le péché, on a vu, peut toujours être pardonné, mais le péché conduit toujours à des conséquences négatives. L'ennemi cherche à nous tromper. L'ennemi nous montre que le côté positif, que le côté bonheur immédiat du péché. Mais le péché apporte toujours des conséquences négatives qui viennent avec ce bonheur temporaire. Parfois des conséquences immédiates, parfois des conséquences au long terme. Et Dieu, puisqu'il est un Père qui nous aime, il veut nous épargner ces conséquences. Il ne dit pas « ne faites pas cela » parce qu'il ne veut pas qu'on soit heureux. Bien au contraire. Il nous dit « ne fais pas cela parce que je veux que vous soyez réellement heureux pour longtemps. Que vous ayez les bonnes conséquences, des bonnes choses dans votre vie et non pas les conséquences négatives du péché dans votre vie. » On le voit par exemple dans l'histoire du roi David. À partir du moment où David a commis l'adultère, certes, son péché a été pardonné. Certes, Dieu n'a pas pour autant retiré son Saint-Esprit de la vie de David. Pourtant, David, par la suite, a vu toute sa famille tomber en ruine tout autour de lui. Des viols au sein de sa famille, des meurtres au sein de sa famille, des révoltes au sein de sa famille. Toute sa vie de famille s'est écroulée à partir du moment où il a commis cet adultère. Son péché a été pardonné, mais Dieu n'a pas pour autant enlevé les conséquences pratiques de ce mauvais exemple que David avait donné aux garçons de sa famille. Si on est honnête, ce que nous voyons actuellement sur nos écrans de télévision est aussi une des conséquences à très long terme de la désobéissance du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Pourquoi est-ce qu'il y a tous ces combats autour de ce territoire en Israël? Pourquoi il y a tous ces peuples qui réclament ce territoire? C'est parce que dans l'Ancien Testament, quand Israël a péché contre Dieu, Dieu les avait prévenus, si vous continuez, je permettrai aux empires assyriens et babyloniens de venir et de vous emmener en exil. Et qu'ont fait ces empires lorsqu'ils ont emmené le peuple d'Israël en exil? Ils ont implanté d'autres peuples sur le territoire d'Israël. Et si vous lisez le livre d'Esdras et le livre de Néhémie, à partir de ce moment-là, il y a eu des conflits à nouveau sur ce territoire parce qu'il y avait tous ces peuples, il y avait les Juifs qui revenaient, mais il y avait les autres peuples qui avaient été transportés là, qui disaient « Ah ben non, vous n'allez pas juste revenir, maintenant c'est chez nous et nous allons décider ce qui se passe là ». Dans le Nouveau Testament, ça continuait. Les tensions entre la Galilée qui était plutôt majoritairement païenne, et puis le Judée qui était majoritairement juif. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la conséquence à des générations et des générations plus loin de ces péchés-là. Pourtant, Dieu avait pardonné à son peuple. Dieu a permis à son peuple de revenir, mais il n'a pas pour autant enlevé les conséquences de leurs péchés. Tout à l'heure, j'ai cité un des directeurs de notre école biblique. Lorsque j'étais étudiant, un jour, les directeurs sont venus demander à ce qu'on prie dans la réunion à la chapelle pour un ancien étudiant qui avait pris contact avec l'école en disant qu'il avait appris qu'il était mourant. Et bon, il n'était pas très âgé, il avait à peine 40 ans. Et il a dit, en même temps, j'accepte, je reconnais que je ne fais que récolter ce que j'ai semé dans ma jeunesse. J'avais abusé d'alcool, j'avais abusé des drogues, et maintenant, je vis les conséquences de mes choix à l'époque. Dieu l'avait pardonné. Dieu l'avait lavé, Dieu l'avait accepté et avait mis son esprit en lui, l'avait même permis de se former pour le ministère. Mais il disait en même temps, je vis avec les conséquences des péchés que j'ai commis. Le péché apporte toujours des conséquences avec lui. La Bible nous dit que, certes, si nous vivons pour Dieu, nous aurons certaines difficultés dans la vie. Il y aura des persécutions contre ceux qui veulent vivre pour Dieu. Mais en même temps, combien de peines nous évitons en tant que conséquence de notre péché si nous recherchons la sanctification. 1 Pierre, chapitre 3, les versets 8 à 17, disent enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ce qui décrit votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Il nous a sauvés dans cet objectif de nous rendre semblables à l'image de son Fils bien-aimé. Collaborons donc avec lui. Permettons à l'Esprit de nous montrer notre péché. Repentons-nous de notre péché et permettons à l'Esprit de remplacer l'attirance vers le bonheur de notre chair, vers le bonheur éternel et le vrai bonheur même dans ce vie où Dieu veuille qu'on soit heureux avec la joie de sa présence, avec la joie de son esprit, et où il veuille nous accueillir dans son royaume éternel.